à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeurs de Calan Maradou, bonjour, vive l'été. Voici la dernière édition de la saison radiophonique de l'émission À 23 pas du mystère, consacrée au polar et à la science-fiction. Le maître des lieux, le terrible Jérôme, est aux commandes comme d'habitude. Et Miss Lemon est également présente. Bonjour Miss Lemon.
Merci, vous ne me rassurez pas.
Bonjour à tous.
Bonjour maître des lieux. Nous te laissons la parole, de quoi on parle aujourd'hui?
Alors, bienvenue à 23 pas du mystère, tout d'abord. Alors, au menu de notre émission estivale, nous avons un programme plutôt varié, je vous laisse juger. D'abord, on va commencer par la suite et fin provisoire d'un dossier qu'on a ouvert au mois de mai, si vous vous rappelez, sur Arsène Lupin.
Ah oui, l'Arsène. Ensuite,
nous aurons une interview d'un écrivain bel et bien vivant, ce qui n'est pas du tout dans nos habitudes.
On va peut-être pas, on fait une exception, mais que ça ne se reproduise pas.
Que j'ai réalisé en mai, donc à l'occasion du Festival des littératures policières, noires et sociales de Besançon.
D'accord.
Et pour terminer, nous avons deux chroniques sur trois, puisque Gilles Poussin est déjà parti en vacances.
Oui, les vacances. Hein.
Je crois qu'il est à Dubaï avec ses amis ultra riches, me semble.
Ses amis influenceurs.
On en reparlera.
Du haut de gamme.
Donc, nos deux chroniqueurs fidèles qui n'ont pas pu partir en vacances sont là. Geek Patrick, qui se paye vraiment toutes les audaces.
Ouais,
parce qu'il va nous parler du dernier roman paru cette année même, d'un romancier qui est plutôt mainstream que littérature de genre.
Exactement.
Et je ne sais pas si on va tolérer ça encore bien longtemps.
Non, c'est une exception qui ne se reproduira pas avant la prochaine.
Ensuite, Miss Lemon va nous emmener nous rafraîchir au bord de la mer, mais dans une ambiance pas franchement idyllique.
Ah bon ?
Ouais. C'est parti.
Suspense.
Pour une petite heure à 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Je vous rappelle donc que lors de notre émission du mois de mai, pour les fidèles auditeurs, nous avions évoqué avec Georges Lajara le célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin, et particulièrement les pastiches d'Arsène Lupin, c'est-à-dire les continuations du cycle par d'autres auteurs que son créateur, Maurice Leblanc.
Oui,
si
tout
vous
à fait.
Souvenez.
Donc, Arsène Lupin apocryphe, on pourrait dire.
Bon, oui,
ça ne veut pas dire grand-chose.
On peut le dire, si.
Ok, on va quand même le dire.
Tout à fait. Et donc, on vous propose aujourd'hui un complément, et je vais donc passer en revue les apparitions du personnage sur d'autres supports médiatiques que le roman. Mmh. Donc, ce sont des transpositions, finalement, de ce personnage. Donc, on en a dans différents domaines. D'une part, au théâtre. On a Arsène Lupin au théâtre dès 1908, donc très tôt. On a une pièce en quatre actes qui est écrite par Maurice Leblanc, l'auteur.
Lui-même, d'accord.
Ouais, et un dramaturge qui s'appelle Francis de Croisset. Et dans la pièce s'intitule Arsène Lupin, simplement. Et elle a connu un grand succès, a été reprise plusieurs fois par plusieurs troupes théâtrales. L'année suivante, donc 1909, nous avons à Barcelone, cette fois, descend un petit peu, Arsène Lupin contre Herlock Sholmès.
Ah oui.
Qui est donc l'adaptation d'un roman de Maurice Leblanc.
Oui, tout à fait, que j'avais lu. C'était trop drôle, Herlock Sholmès, j'adorais ce nom. C'était évidemment une référence.
Qui était paru donc l'année précédente, 1908, et qui est écrite par un couple d'auteurs, mais pas à la ville, qui s'appelle Victor Darlay et Henri de Gors.
Bon, en tout cas, c'est à Barcelone, c'est dire le succès international d'Arsène Lupin quand même.
Oui, tout à fait.
C'est impressionnant.
Ensuite, une pièce qui a été reprise l'année d'après à Paris. On peut encore citer en 1911, donc toujours avant la Première Guerre, une adaptation de L'Aiguille Creuse, donc un autre célèbre roman du cycle.
Tout à fait.
Ça a droit à une pièce en trois actes. Qui est écrite par deux Espagnols, toujours donc, d'après le roman de Maurice Leblanc, etc. Donc on a une filiation, une suite de pièces de théâtre jusqu'à l'époque actuelle, mais très tôt, donc, le personnage est transposé au théâtre. Ensuite, une autre petite... On est dans le théâtre, on va glisser vers un domaine tout à fait proche, qui est celui de l'opérette, ce qui est un peu plus... croquignole, disons, oui. C'est qu'on a une opérette, on a Arsène Lupin qui figure dans une opérette qui s'appelle Arsène Lupin banquier, qui a été créée en mai 1930 au Bouffe Parisien, sur un livret d'Yves Mirande.
C'est bien après, là, hein, tu vois, on passe en 1930, on était vers 1910 autour, et là, on passe 20 ans après.
Et donc, c'est une opérette en trois actes dans laquelle Arsène Lupin maille à partir avec un banquier véreux. Un personnage qu'on trouve fréquemment dans son œuvre et qui est encore d'actualité, effectivement.
Ami banquier, bonjour.
Arsène Lupin est interprété par l'acteur René Coval, enfin le chanteur René Coval. Et l'un de ses complices, qui s'appelle Gontran, il est lui interprété par un jeune premier qui deviendra célèbre un peu plus tard au cinéma. Et donc, on va écouter un extrait de cette opérette et on en reparle juste après.
C'est parti.
J'ai un peu changé d'allure, aujourd'hui faut être bien mis. On fait bien meilleure figure quand on a de beaux habits. Visez donc un peu le chic de mes gants et le chic de ma jaquette. C'est chouette d'être un monsieur. Visez donc mes bouts vernis, mon grappin de chez Ribi. Visez mes chaussettes et cette perlouse de prix. J'ai de beaux caleçons, c'est pas que ton qui sont. Visez donc ma batte, cravate, le pic maillot. Et ce diamé dit jute, il vous en fout plein les yeux. Y'a pas une manchette, c'est chouette d'être un monsieur. Pour que les gens vous considèrent, suffit pas d'un beau complet. Faut aussi les belles manières, et comment que moi je les ai. Visez donc un peu ce petit jus que j'ai quand je tire ma cigarette. C'est chouette d'être un monsieur. Visez donc un peu ce maintien, en marchant ce que je la fous bien. J'ai-t-y la prestance, l'aisance, chic parisien. Oh, dans la rue parfois, si un chauffeur peu courtois veut se payer ma tête et me traite de sale bourgeois, dédaignard et dédaigneux, je lui dis merde d'un ton précieux. Y'a pas une enjette, c'est chouette d'être un monsieur.
C'était donc C'est chouette d'être un monsieur.
C'est chouette. Oui.
Interprété par, à votre avis, qui était l'interprète de cette chanson?
Pendant la chanson, on a trouvé parce qu'on est trop fort. Mmh. Donc un acteur, un jeune premier dans les années 30, devenu
acteur
central du cinéma français dans les années 50.
Oh, moi, j'ai séché, je reconnais.
L'ami Jean Gabin.
Tout à fait. Bravo, Geek Patrick. Alors, après le théâtre, l'opérette, eh bien, on va trouver Arsène Lupin dans des pièces radiophoniques. Donc on a, un peu plus tard, en 1936, une série de pièces qui sont diffusées par Radio Cité, avec des titres comme « L'arrestation d'Arsène Lupin »,« Le cabochon d'émeraude », etc., qui sont des nouvelles écrites par Maurice Leblanc. On a une autre série en 1960-61 sous le titre « Les aventures d'Arsène Lupin » qui sont diffusées sur France 2.
Et on voit que ça dure, quoi. On est au début des années 60, hein, on est vraiment 50 ans après les débuts, quoi.
Tout à fait.
Et le succès est encore là, quoi. C'est impressionnant.
Qui fonctionne. On a Arsène Lupin au cinéma, bien sûr, donc ça, c'est bien connu. Mm-hmm. Je vais me contenter de parler des débuts. Eh bien, il entame sa carrière au cinéma en 1908, en même temps qu'au théâtre.
Déjà ?
Waouh ! Avec un film américain qui s'appelle « Une aventure d'Arsène Lupin ». Et petite curiosité, le réalisateur de ce court-métrage, Edwin S. Porter, mm-hmm. est célèbre pour avoir réalisé en 1903, quelques années avant, le premier western qui s'appelait The Great Train Robbery, le vol du rapide.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
Une célébrité dans l'univers d'Arsène Lupin. Donc je vous passe toutes les autres adaptations au cinéma, on y passerait la fin de cette émission. On trouve Arsène Lupin un peu plus tard à la télévision, bien mm-hmm. sûr, dès 1960 au Québec, avec une série en 13 épisodes, qui n'est pas le plus connu.
Avait-il l'accent québécois, Arsène Lupin? Là, ça gâche son élégance quand même. Excusez-moi les Québécois, je vais me fâcher avec tout le monde, les banquiers, les Québécois.
Parce que là,
c'est la journée, c'est pas chiant.
Tu fais du mauvais coton.
Ensuite, en France, bien, c'est la célèbre série à partir de 1971, en 26 épisodes et deux saisons.
De ma petite enfance, Georges Descrières, Monsieur Laclasse.
Qui a laissé un peu son empreinte quand même sur l'aspect d'Arsène Lupin. Et puis, plusieurs autres séries, jusqu'à la série qui s'appelle Lupin, sortie en 2021,
bien
qui
sûr.
A rencontré un grand succès.
Avec Omar Sy.
Où Arsène Lupin est renommé Hassan Diop et interprété par Omar Sy.
Tout à fait.
Bravo Patrick. Mm-hmm. Ensuite, on trouve Arsène Lupin bien, dans le monde du dessin animé, des films d'animation.
D'accord.
On a notamment deux films d'animation japonais en 1979 et 1981. On a également une série canadienne, encore une fois, qui s'appelle « Les exploits d'Arsène Lupin », qui date, elle, de 1996. Et une série en 26 épisodes animés,
okay.
avec notre héros favori. Du dessin animé, on passe à la bande dessinée, bien sûr. Mm-hmm. Donc on a plusieurs adaptations. On trouve une première adaptation à la fin des années 40, 48-49. C'est le roman 813, qui est un des grands romans du cycle Arsène Lupin, qui est adapté donc, en bande dessinée par Georges Chélard et Georges Bourdin. Et cela paraît en feuilleton dans le quotidien France Soir. Ensuite, on a...
Avant que ce soit un site complotiste, je dis à mes étudiants, François est un site complotiste, ce n'est pas un journal sérieux. Petit peu bon. Message en passant. Autrefois, c'était un vrai journal, un grand journal français.
Arsène Lupin dedans. Ensuite, on peut citer une série d'albums parus beaucoup plus tard, de 1989 à 1998, qui sont des adaptations de romans par André-Paul Duchâteau.
D'accord.
Qui est un célèbre belge qui travaille dans la bande dessinée, le roman, où il a adapté des titres comme Le Bouchon de Cristal, 813, La Demoiselle aux Yeux Verts, L'Aiguille Creuse, une fois de plus, et Victor de la Brigade Mondaine. Alors, pendant qu'on est dans la bande dessinée, on va revenir un peu sur le cas d'Arsène Lupin au Japon. Donc, on a déjà dit que.
Grand succès au Japon.
Arsène Lupin était en film d'animation.
Ouais.
Eh bien, en bande dessinée, on l'adapte aussi au Japon à partir de 1967, avec une œuvre qui met en scène son petit-fils Lupin III. Mm-hmm. En japonais Rupan Sensei, qui a été appelé en France Edgar de la Cambriole.
Ouais,
allez savoir pourquoi. Alors, d'autres mangaka, donc des auteurs de manga, ont repris le personnage, dont un auteur dont on va parler maintenant un peu plus en détail, qui est Takashi Morita.
Okay.
Dont notre lupinologue Georges Lajara va à présent nous parler et nous présenter son travail en détail.
Nous l'écoutons.
Nous avons le plaisir d'accueillir Georges Lajara, membre de l'association 813, les Amis des littératures policières, donc 813 qui évoque Arsène Lupin, bien évidemment. Bonjour Georges.
Bonjour.
Qui est, Georges, donc non seulement membre de l'association, mais qui est aussi un lupinologue averti, et qui vient aujourd'hui nous parler du succès d'Arsène Lupin au Japon. Dans un pays fort éloigné de son pays d'origine. Donc, non seulement du succès d'Arsène Lupin, mais de l'appropriation du personnage par des auteurs japonais. Qu'on t'écoute, Georges.
Oui, donc il y a un lien tout à fait spécial entre Arsène Lupin et le Japon. Hein. Parmi les premiers pastiches d'Arsène Lupin, deux sont parus au Japon en 1927 et en 1930 par des écrivains reconnus japonais, en particulier Edogawa Rampo, hein, qui est un maître...
Un des fondateurs du roman policier.
Un des fondateurs du roman policier au Japon, exactement. Et qui d'ailleurs s'est inspiré un peu du personnage d'Arsène Lupin dans certains de ses écrits. Il faut dire que Maurice Leblanc, très tôt, a fait référence au Japon dans L'évasion d'Arsène Lupin, qui est l'une des premières nouvelles écrites en 1906. Arsène Lupin va faire une clé de bras
au policier
Ganimard. Et il va lui dire cela. « Si l'on vous apprenait le jujitsu au quai des Orfèvres, vous sauriez que ce coup s'appelle Udishigi en japonais. » Donc, non seulement Arsène Lupin était maître en savate, mais aussi en art martial japonais. Donc, ce personnage d'Arsène Lupin, il est venu très tôt au pays du soleil levant. Hein. Il fait partie de ces personnages occidentaux qui sont arrivés à cette époque-là, dans les années 1930-1940. Et en particulier, les mangaka, ceux qui fabriquent des mangas, les mangaka se sont inspirés du personnage depuis fort longtemps. Actuellement, nous avons une série de mangas qui est très très fidèle au roman de Maurice Leblanc, qui sont donc dessinés par Takashi Morita, voilà, qui était à Quai du Polar il y a 2 ans, là, qui est venu présenter.
Tout à fait, on peut retrouver une interview d'ailleurs sur le site des Quai du Polar, on vous mettra le lien dans le podcast.
Tout à fait.
Et juste ajouter qu'il s'est lancé dans quelque chose d'assez ambitieux, c'est d'adapter fidèlement les romans d'Arsène Lupin, c'est ça.
Ouais. Pour l'instant, il en est à 10 tomes. Hein, on trouve dans le commerce 10 livres, mais il y en a 3 déjà qui sont consacrés à l'aiguille creuse. Hein, donc, il n'a pas fini encore d'explorer tout le personnage. Savoir, ça n'a pas été le premier. Hein. Le tout premier, c'est Go Nagai, un mangaka qui on doit Goldorak. Donc, qui a écrit quand même 10 mangas sur Arsène Lupin.
J'ai vu aussi qu'il y avait une adaptation en 1967 qui met en scène le petit-fils d'Arsène Lupin.
Lupin III,
c'est ça.
Lupin III, exactement.
Qui est traduit en français, il s'appelle Edgar de la Cambriole, je crois pour des raisons d'ailleurs.
Des raisons de droit d'auteur. Exactement. Et donc, Lupin III donc, a fait l'objet aussi de dessins animés. Hein, on appelle ça des animes au Japon. Et a participé à ces animes Miyazaki, donc le célèbre auquel on doit de nombreux dessins animés comme Le Voyage de Chihiro, etc. Voilà, donc Takashi Morita, c'est vraiment un fan absolu de Maurice Leblanc. Hein. Il est venu plein de fois à Étretat. Hein. Il a été adoubé par l'association des amis d'Arsène Lupin.
Ouais. Rappelons qu'à Étretat, il y a le Clos Lupin, c'est-à-dire la villa de Maurice Leblanc qui a été transformée en maison d'auteur et qui se visite.
Voilà.
Des visites scénarisées d'ailleurs.
Et donc, il a même fait des émules. Hein. Maintenant, il y a même deux mangakas féminins, je ne sais pas comment on peut appeler ça, deux femmes mangakas hein, qui reprennent aussi à leur compte les histoires de Maurice Leblanc. Donc, à suivre. Hein. Pour l'instant, je vous dis, il y a 10 tomes qui sont parus. Mais s'il veut vraiment faire toute l'œuvre de Maurice Leblanc, il en a pour un petit moment.
Nous, ouais.
Alors, il est aussi passionné par Le Comte de Monte Cristo. Voilà, donc peut-être qu'un jour, on verra Le Comte de Monte Cristo... illustré par
Takashi fidèlement.
Parce que vraiment, les adaptations sont très, très fidèles. Hein, on retrouve les dialogues, les vrais dialogues du roman sont dans le manga.
C'est quelque chose de remarquable parce que ce n'est pas le cas des autres adaptations, soit en animé, soit...
Et c'était vraiment son désir d'être vraiment le plus fidèle possible au roman.
Ah bien, merci, Georges, d'avoir fait découvrir cette partie de l'univers d'Arsène Lupin au Japon. Voilà, c'était Georges Lajara qui nous parlait des adaptations en manga par Takashi Morita.
Donc, grand succès au Japon.
Tout à fait.
D'Arsène Lupin.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Nous abordons un autre thème à présent qui n'a absolument rien à voir avec Arsène Lupin. En mai dernier, donc, lors du Festival des littératures policières noires et sociales de Besançon, qui est organisé par l'ami Thierry Love et son équipe de Pas Sérial S'abstenir, que je salue au passage depuis Villefranche, eh bien, j'ai interviewé un auteur de romans noirs qui s'appelle Frédéric Bertin-Denis. Et je vous propose aujourd'hui, en léger différé, donc, d'écouter cet entretien. Nous sommes en direct du Festival des littératures policières noires et sociales de Besançon, en ce beau mois de mai. Notre invité est Frédéric Bertin-Denis. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Donc tu es un des auteurs invités de ce festival et tu es là pour nous parler de ton œuvre de romancier. Alors tu n'es pas romancier à temps complet.
Hein, non, je suis prof aussi.
Voilà. Mais tu as commis quelques romans ces dernières années. Écoute, je te laisse présenter un peu ton œuvre. Première publication, si je ne me trompe pas, c'est en 2007 hein, avec Matador.
C'est ça.
Voilà. Alors explique-nous.
Oui, voilà. Donc moi, je passais beaucoup de temps en Espagne et donc voilà, j'ai placé mes romans dans la région de Cordoue parce que c'est une ville que j'adore et que je trouve vachement chouette. Donc il y a 4 romans en fait.
Quatre romans avec le même personnage.
Avec le même personnage, un personnage récurrent qui est un flic un peu atypique dans le sens où c'est quelqu'un qui est pas très très pour l'autorité. Il est même plutôt dans les tendances anarchistes. Et il est. Mais bon, il croit en son travail comme un travail d'aide aux personnes. Il a vraiment la devise
côté,
de l'humain.
Son
but, c'est que les gens soient le mieux possible.
D'accord. Donc, un problème avec l'autorité qui vient un peu de son passé punk, anarchiste, qui n'a pas renié.
Ah non, il n'a pas du tout renié.
Pas du tout. Et. En même temps, travailler au sein d'une institution.
La police,
donc essayer de combiner les deux, donc difficultés avec sa hiérarchie,
la police étant un truc un peu particulier pour un anarchiste, quoi.
Oui, tout à fait.
Mais il croit en son boulot dans l'aide aux personnes, vraiment.
Ce qui fait qu'il est quand même respecté par ses collègues qui lui donnent son soutien.
Et puis il est toujours entouré, il a deux collègues qui sont des plantons, en fait, donc normalement, vraiment le bas de la hiérarchie, mais lui il leur fait totalement confiance parce que c'est des gars qui sont super forts dans leur recherche, dans leur quand il a besoin d'eux, ils disent toujours présents, et donc ça énerve un petit peu son chef, parce que il respecte rien du tout de la hiérarchie, il prend les plantons plutôt que des inspecteurs. Il est un peu particulier à ce niveau-là.
Alors, ce qu'on a oublié quand même de dire, c'est son nom.
Oui, alors c'est El Gordeta, alors c'est Manuel El Gordo, il est inspecteur chef, donc c'est déjà une position importante dans la police. Et il s'appelle El Gordo, Manuel, et puis tout le monde l'appelle El Gordete. Alors voilà, c'est un petit jeu de mots, hein, parce que El Gordo, ça veut dire le gros. Son nom de famille veut dire le gros, et en fait El Gordete, c'est un diminutif sympathique qui veut dire un peu le petit gros, si vous voulez.
D'accord. Qu'un bon vivant.
Oui, un bon vivant. Il a tous les défauts de la terre au niveau de la nourriture. Il mange beaucoup trop, il boite beaucoup trop, il fume beaucoup trop. C'est un gros fumeur. Et il est marié avec Remedio, qui est médecin légiste.
Ah, d'accord.
Donc elle essaye de le modérer dans tous ses excès.
D'accord, pour pas le retrouver comme client.
Pour ne pas l'avoir sur à l'ouvrir parce qu'il aura fait l'excès de trop.
Voilà. D'accord. Donc si on reprend ta biographie, tu as donc Matador à partir en 2007.
Oui.
À Paris. Donc tu peux peut-être nous présenter.
Oui. Alors Matador, si vous voulez, c'est un peu une histoire à la Columbo. C'est tout de suite qui est le tueur. Hein, donc dès le départ. Ouais. Et en fait, c'est un matador de taureaux, qui est une grande figure de la tauromachie, et qui décide que les taureaux ne lui suffisent plus, et donc qui décide de faire une corrida qu'il dédie à Dieu, mais avec des humains. Et donc, El Gordete est plutôt, lui, aficionado de la tauromachie.
Ah oui.
Donc, il le connaît par sa célébrité, etc. Et il a du mal à imaginer que c'est lui qui va tuer. Donc, en fait, on suit toute l'enquête à travers l'Espagne, parce que, les matadors de taureaux vont d'arène en arène.
D'accord.
Et donc, là, on suit le parcours de ce tueur. On part de Séville, on se déplace à Cordoue, on se déplace à Barcelone, Bilbao, toutes les grandes arènes. Et en fait, le roman est construit totalement comme une corrida. C'est-à-dire que, une corrida, c'est fait à base de tertiaux.
Uh-huh.
Et donc, vu que lui, il fait un rituel autour de ça dans ses crimes, le roman est construit aussi autour du rituel de la corrida.
D'accord, voilà. Très bien. Le second, Viva la Muerte,
oui.
En 2012.
Oui, donc ça, Viva la Muerte, c'est vraiment un roman qui me tient vraiment à cœur parce que c'est autour du franquisme. Et j'ai interrogé énormément de personnes pour écrire ce roman. J'ai interrogé plein de vieux, de très vieux, et qui m'ont raconté leur franquisme. Donc j'ai autant vu des nationalistes que des républicains.
Hein, d'accord.
Et avec toutes les anecdotes, toutes les choses qu'ils m'ont racontées, j'ai essayé d'assimiler ça et d'en faire un roman.
Et c'est un roman. D'enrichir ton intrigue du réel.
Voilà. Et donc, c'est une intrigue qui est construite sur. Enfin, c'est une histoire de vengeance, en fait. Et c'est des très vieux qui se font assassiner un peu à travers le monde. Enfin, à travers l'Espagne.
Lié
à un événement de l'après-guerre d'Espagne.
D'accord.
Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier avec la guerre d'Espagne, c'est qu'elle s'est arrêtée en 1939, mais qu'il y a eu des massacres jusque dans les années 60. Donc, la phalange n'hésitait pas à continuer à aller assassiner des gens dans les villages. Donc, il y a un premier événement qui lance le roman. Et après, à travers cinq personnages piliers du franquisme qui sont assassinés. Je remonte les 50 ans hein, entre les années 30 et la transition en Espagne. Quoi.
D'accord, voilà. Donc ce ne sont pas des sujets très, très drôles que tu abordes.
Malheureusement, je ne suis pas très rigolo. Non, mais le truc, c'est que voilà, j'ai une vision assez pessimiste du monde. Donc forcément, les thèmes qui m'accrochent, c'est ce qui déconne dans notre société. Quoi,
voilà. Et donc ça continue avec le suivant, 7 milliards de jurés. Oui. Lui va nous parler de capitalisme.
Oui, voilà. Alors voilà, des groupuscules anticapitalistes et du capitalisme. Et puis aussi de la responsabilité des gens vis-à-vis du capitalisme. Je veux dire, c'est pas juste une charge contre le capitalisme. Mm-hmm. C'est aussi une réflexion sur... quand nous, on achète un t-shirt à 2 euros sur Internet, forcément, derrière, il y a des gens qu'on pâtisse. Et on est totalement complice d'un certain nombre de choses. Et je me suis beaucoup inspiré pour travailler sur le groupuscule d'activistes, des gens qui, par exemple, de la bande Abadère ou des brigades rouges. Ouais, en fait, ils travaillent un petit peu comme travaillaient la bande Abadère et les brigades rouges. Ils enlèvent des gens. Là, j'ai actualisé, ils les mettent en procès sur Internet. Mm-hmm. Et j'essaye pareil, à travers le portrait de ces activistes, de montrer comment certains peuvent arriver à franchir d'une violence, ouais. D'une violence extrême. D'accord. Donc voilà, donc pareil, il y a plein de personnages qui... moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages. Voilà. Et donc, il y a plein de personnages qui marquent pourquoi on peut arriver à des extrêmes aussi violentes.
Et le dernier qui vient juste de sortir, ce mois de mai, qui s'appelle « Fuis, vis et raconte ».
Oui.
Qui aborde encore un sujet
gay. Voilà, très très gay. Donc là, c'est sur les migrants et le trafic d'organes. Donc en gros, là, dans ce roman-là, on suit le parcours d'un migrant qui part du Bénin et qui a tout un périple à travers l'Afrique. Ouais. Avec tous les dangers le long du chemin. Et en parallèle, on a une enquête qui se passe toujours avec mon flic à Cordoue, mm-hmm. où on retrouve un charnier de personnes avec tous des migrants, c'est tous des noirs. Et
les femmes, deux intrigues,
on arrive à un moment donné où les deux intrigues se rencontrent.
D'accord.
Et voilà, ça met en jeu l'extrême droite espagnole, ça met en jeu un clan gitan. Ça met en jeu des salopards de toutes parts.
Et là, est-ce que tu as interviewé, tu t'es renseigné?
Oui, alors là, j'ai beaucoup travaillé plutôt à base d'archives.
D'accord. Ouais.
Sur les surtout les rapports de traite humaine.
Oui, bien sûr. Traite humaine,
au niveau international, il y a plein de choses qui circulent. Après, j'ai vu énormément de reportages aussi. Il y en a plein Internet. Hein, pour ceux qui veulent s'intéresser là-dessus. Autrement, j'ai lu pas mal de choses aussi sur le trafic d'organes particulièrement, où ça se passe, comment ça se passe, avec des trafics qui ont quasiment pignon sur rue, quoi. Ça se passe dans des vrais hôpitaux, avec des vrais chirurgiens, et avec des vrais gens riches qui sont prêts à payer n'importe quoi pour survivre, alors que voilà.
Très bien. Donc, ces romans sont édités par les éditions La Joanie,
oui,
c'est ça?
Oui, oui.
Donc, disponibles dans les...
Oui, dans toutes les librairies. Tout n'est pas en rayon,
non,
évidemment,
tout à fait, mais
ça se commande très facilement. On peut commander directement sur le site
de l'édition, La Joanie. On mettra les coordonnées sur notre page de l'émission.
Non, moi, ça se trouve partout. Voilà. Toutes les plateformes, pour ceux qui utilisent les plateformes.
Très bien. On va passer, je t'avais demandé en préparant l'interview de me citer quelques auteurs qui auraient pu t'influencer ou te donner envie d'écrire plus largement. Donc on en a retenu deux Américains et deux Français.
Oui.
On va peut-être commencer par les Américains,
convient. On attaque par les Américains.
Allez, donc le premier c'était Denis Lehane, s'est rendu assez célèbre principalement par des adaptations au cinéma. Comme Gone Baby Gone, Mystic River, Clint Eastwood, Shutter Island, l'auteur, qui est donc l'auteur de romans noirs, qui sont situés à Boston.
Il est très ancré dans sa ville, effectivement. Ville Alors pareil, c'est vraiment un auteur que j'aime bien. Alors autant dans ces certains de ses polars, il y a son couple, il a un couple d'enquêteurs, un détective.
Un détective privé.
Et ouais. Voilà, une femme et un homme. Et voilà, c'est, bon, ça m'a toujours bien plu. Hein, j'aime beaucoup, moi, c'est pour ça que j'utilise aussi des personnages récurrents. J'aime bien les personnages, retrouver des personnages qui m'ont. Souvent, ils sont assez attachants, ils sont assez complexes. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et puis, les intrigues qu'il met en œuvre sont toujours. Je trouve assez social, assez ancré. C'est vraiment du noir, mais c'est pas juste une enquête pour une enquête. Il y a souvent des implications politiques, sociales derrière. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse énormément dans le roman noir. Quoi.
Et le deuxième auteur américain, donc c'est un géant du roman noir contemporain, James Ellroy. Oui. Qui t'a intéressé au début, essentiellement, avec la trilogie du sergent Lloyd Hopkins.
Oui, voilà, j'ai commencé par ça.
Essentiellement, puis après, le Quatuor de Los Angeles, peut-être.
Aussi. Alors voilà, moi, j'avais, je ne sais pas, 14-15 ans par là, quand sont sortis chez Rivage, la belle collection Rivage, les premiers Ellroy. Et tout de suite, voilà, alors la première trilogie d'Hopkins, ça m'a scotché. Il y avait une violence qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs. Il y avait une façon d'écrire. Bon, Ellroy est ce qu'il est. Il devient fatigant, je trouve. Mais c'est un vrai écrivain. Il a un style qui est magnifique. Alors, merci au traducteur, parce que moi, je lis pas dans le texte.
Mais ouais, c'est pas évident.
Je trouve que qu'il a une écriture qui était assez révolutionnaire pour l'époque, et des intrigues qui m'ont emmené avec des tueurs un peu cinglés, avec un flic toujours au bord
un flic assez atypique.
au bord de mourir tout le temps, tellement il est dépressif. Pas bien, donc toujours voilà. Donc ça, mais voilà, c'était assez nouveau à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une image qui est très très répandue, mais et donc voilà. Ellroy, autant j'aime ses écrits, autant le personnage Ellroy m'intéresse moins. Je le vois toujours fanfaronner. Il a des côtés un peu puants, mais c'est pour moi un très grand écrivain. J'aime moins ces derniers,
ce qu'on entend souvent.
Des gros pavés où on se perd dans des trucs. Il a commencé à me fatiguer il y a une dizaine d'années.
D'accord. Donc, après ces deux Américains, on va passer à la France, avec deux auteurs qui, eux, n'ont rien à voir idéologiquement avec Ellroy, qui serait plutôt tout à fait à l'inverse. Le premier, Frédéric Fajardy.
Oui, Alors, Fajardy, moi, je pense que c'est le plus grand noveliste du polar français. Aller lire toutes les nouvelles de Fajardy, c'est des claques à chaque fois.
Elles sont nombreuses.
Oui, elles sont nombreuses, mais il avait ce don. En quelques pages de vous scotcher, de vous faire pleurer, de vous faire d'avoir les poils, comme on dit aujourd'hui, quand on fermait une nouvelle, comment il m'a mis une claque à la fin, c'était superbe, et puis ses romans, j'aime beaucoup, pareil, c'est toujours mes vieilles habitudes, son commissaire Padovani
qui est dans Tueur de flics,
la théorie du 1%, c'est un auteur qui m'a énormément marqué aussi plus jeune, et comme tu disais, politiquement, c'est quelqu'un qui était
militant,
il était militant, c'est quelqu'un dont je serais assez proche au niveau idéologique.
Et un autre auteur qui est de même tendance, qui est Didier Denings, qui est encore en activité. Qui a écrit des romans comme Meurtre pour mémoire,
qui rappelle
le massacre des Algériens lors de la manifestation en octobre 61. Le Derdéder, qui lui s'ancrait dans la Première Guerre mondiale.
C'est ce que j'adore chez Denings, cette capacité à nous mettre l'histoire en miroir de ce qu'on vit aussi aujourd'hui, même si c'est très ancré que ce soit Meurtre pour mémoire en 61,
sur des événements bien précis,
mais qui renvoie des choses très actuelles.
Un lien avec le présent.
Toujours. Et pareil, il a une qualité d'écriture qui est quand même remarquable. Et c'est un type que j'aime beaucoup. Alors pareil, j'aimais beaucoup dans ses premiers romans Cadin, donc son aspect... Oui. Je ne sais plus s'il est commissaire ou inspecteur, je ne sais plus, Cadin. Mais enfin, dans tout le début de ses romans des années 70-80...
Qui paraissait ancien et loin.
Et pareil, c'est c'était des romans ancrés dans le social. Mmh. Moi, j'ai l'impression vraiment de me répéter, mais c'est vraiment une de mes obsessions. Mmh. En gros, j'aime quand les choses sont ancrées et qu'il y a un parti pris sur une vision qu'on a du monde. Quoi. Donc, sans dire qu'il a raison ou tort, mais en tout cas, je pense qu'il a plus raison que d'autres.
Voilà. Merci en tout cas pour cette présentation. On espère que ça vous aura donné envie de lire les romans de Frédéric Bertin-Denis. Donc vous trouverez toutes les références sur notre page et puis de découvrir aussi, redécouvrir les auteurs qui vous a présentés, notamment Frédéric Fajardi qui est un peu oublié aujourd'hui. Peut-être,
oui, malheureusement. Oui.
Il est décédé depuis bientôt une vingtaine d'années.
Oui, il est décédé jeune. Et, ouais.
Merci.
Merci à toi et puis merci aux auditeurs. Voilà.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Nous espérons donc vous avoir donné envie de découvrir l'œuvre d'un romancier contemporain dont vous pourrez trouver les romans aux éditions La Joanie.
On rappelle son nom ?
Frédéric Bertin-Denis.
Merci.
Alors après cette longue interview, nous allons faire une petite pause musicale avec une chanson qui a un programme en soi, c'est-à-dire que je vais vivre la vie dont je parle dans mes chansons. C'était donc l'immense Mahalia Jackson avec I'm going to live the life I sing about my songs. Une chanson qui est tout un programme qu'elle a bien réalisé dans sa propre vie. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à la partie chronique.
À 23 pas du mystère.
Calade.
Chers amis, nous sommes donc arrivés à la partie chronique de cette émission avec une équipe réduite, mais pas, pour autant pas moins dynamique et même plus dynamique que d'habitude, n'est-ce pas Geek Patrick, n'est-ce pas Miss Lemon ?
Tout à fait, fidèle au poste et solide.
Alors nous commençons aujourd'hui au hasard, c'est Geek Patrick qui a été tiré au sort pour démarrer les chroniques. La chronique
de Geek Patrick.
Salut Geek Patrick, de quel roman vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur qui n'est pas, comme l'avait dit Jérôme, tout à fait estampillé science-fiction. C'est un auteur mainstream, respectable, hein, comme l'avait dit Jérôme. On parle même de lui régulièrement pour pécho, devinez quoi, le prix Nobel de littérature. Bon, ce n'est pas encore fait, mais il a ses chances. Et pourtant, il n'est pas très net, ce gars-là, parce qu'il n'est pas très français, pas très blanc, pas très occidental. Ce qui, dans notre monde moderne, largement xénophobe et d'extrême droite, n'est peut-être pas un gage de succès en France. Mais bon, plus sérieusement, il écrit des histoires bizarres, des histoires où on passe sans vraiment prévenir personne de notre monde à nous, carré, rationnel, à un monde quasiment jumeau, sauf qu'il y a des trucs qui clochent. Et parfois, on met du temps à mettre le doigt sur ce qui cloche.
Bon, en fait, tu commences à prendre l'habitude d'être de moins en moins clair, hein, Patrick. Donc, quel est cet auteur et de quoi s'agit-il ?
C'est Haruki Murakami. Et oui, c'est un japonais. J'adore les noms japonais. C'est comme une invitation à rêver. Je vais vous en donner quelques-uns. Kore-eda Hirokazu, Kazuo Ishiguro, Ryusuke Hamaguchi, Haruki Murakami. Bon, on sait que le Japon, c'est un étrange cousin hein, qui est en apparence comme nous au niveau économique, technologique, mais en fait, qui n'est pas du tout comme nous. Et c'est un peu la sensation qui ressort de la lecture des romans d'Haruki Murakami. Celui dont je vais vous parler, c'est son tout dernier, qui s'appelle « La cité aux murs incertains ». D'abord, j'aime beaucoup comment il démarre. On a deux adolescents de 16 et 17 ans qui sont ensemble et ils sont en train de tomber amoureux. Et c'est très beau, c'est doux, c'est subtil. Je vais vous citer les toutes premières pages. Tu avais fourré négligemment tes sandales rouges à petits talons dans ton sac en faux cuir jaune et tu continuais de marcher à quelques pas devant moi, sautillant d'un banc de sable à un autre. Des brins d'herbes humides restaient collés à tes mollets mouillés, dessinant une jolie ponctuation verte sur ta peau. Moi, je tenais à deux mains mes vieilles baskets blanches. Tu t'étais assise dans l'herbe d'été, sans doute fatiguée d'avoir tant marché, puis tu avais regardé le ciel sans rien dire. Deux petits oiseaux, l'un à côté de l'autre, avaient traversé l'espace en lançant des cris aigus. Dans le silence revenu, un présage de crépuscule bleuté a commencé à nous envelopper, toi et moi. C'était comme si des milliers de fils invisibles reliaient délicatement ton corps à mon cœur. Même le plus ténu clignement de tes paupières et l'esquisse d'un tremblement de tes lèvres bousculaient mon cœur.
C'est beau, mais si c'est pas de la SF, qu'est-ce que c'est ce roman ?
Eh bien, c'est un roman qui décroche très vite de notre monde à nous. Dès qu'en fait, la jeune fille de 16 ans dit à son amoureux « Je ne suis pas de ce monde, mon vrai moi est dans la cité aux murs incertains. » Et c'est parti pour ce basculement dans un autre monde identique au nôtre, mais totalement différent. Et parce que j'aime les histoires tristes en apparence, là je suis servi. Le héros va très vite perdre la trace de son amoureuse, définitivement, douloureusement, du moins dans ce monde. Parce que dès lors, il commence sa quête pour accéder à cette cité aux murs incertains, où il retrouvera le vrai moi de son aimé. Il sait qu'il le peut, elle le lui a dit dès le départ, qu'il était attendu, qu'il avait sa place dans cette cité, et qu'il avait un rôle à jouer. Alors il va réussir à l'atteindre, mais il va lui falloir 25 ans pour y arriver. Et son aimé dans la cité, elle a toujours 17 ans quand il y arrive, car le temps s'écoule bizarrement là-bas. Et elle ne le connaît pas, c'est normal, c'est de son double qu'il était amoureux dans notre monde.
Ce serait pas un peu fantastique ton roman par hasard ?
Exactement. On parle même à propos des livres de Murakami de réalisme magique. Et pour ceux qui connaissent, on range d'ailleurs, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge, on range dans cette famille un autre auteur mondialement connu, Gabriel Garcia Marquez,
oui, Gabriel.
Avec le fameux Cent ans de solitude. Voilà. Est-ce que tu sais d'ailleurs, je tiens l'information de notre invité du mois dernier, l'auteur de Polar suisse Nicolas Gandin, qu'on avait reçu.
Verdant, s'il vous plaît, Nicolas Verdant.
Verdant, mais pourquoi je l'ai appelé Gandin ? Excuse-moi, je suis désolé. Nicolas, si tu nous écoutes, toutes mes excuses de Suisse, il va m'en vouloir. Eh bien, il m'avait expliqué que Haruki Murakami a lui-même une sorte de double au Japon. Un autre romancier nommé Murakami également, Ryu Murakami. Étonnant, non ?
Ok, mais tu nous en dis un petit peu pas plus là sur ton roman, moi j'attends.
Allez, quelques miettes pour picorer un peu de ce réalisme magique. Sais-tu pourquoi il était attendu dans cette cité, notre héros ?
Bah non, pas du tout.
Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler à la bibliothèque. Tu vas me dire, bon ok, d'accord, mais attention, une bibliothèque qui n'a aucun livre.
Alors à quoi sert-elle cette bibliothèque ?
Elle stocke non pas des livres, mais des rêves. Et notre héros devient le seul lecteur de rêves de la cité. Et pour ça, on lui a découpé les yeux.
Oh, c'est terrible.
Ouais. En fait, si tu veux savoir pourquoi on lui a découpé des yeux, je vais t'expliquer. Non, en fait, je ne vais pas t'expliquer. Si tu veux savoir, t'as qu'à le lire.
Voilà, je veux pas c'est comme que tu spoiles.
On avait dit que je ne spoilais plus, donc je ne t'explique pas. Okay. Mais de toute façon, ne t'attends pas à avoir des réponses à toutes tes questions. Il va falloir faire preuve d'imagination pour accompagner le héros. Parce que sa présence dans la cité est très loin d'être la fin de ce roman. Il va encore se passer plein de choses. Mais encore une fois, beaucoup de quotidien et beaucoup d'étrangetés entremêlées. En tout cas, ce qui est chouette, c'est cette impression que l'essentiel du travail à faire, de compréhension, de reconstruction, bah en fait, c'est au lecteur de le faire. Mais je vais finir cette chronique comme je l'avais commencé en lisant un extrait qui parle de l'amour du héros pour sa belle. Parce qu'en fait, c'est le sujet central de ce livre. Ou peut-être pas. C'est le héros qui... Attention, ce n'est pas le héros qui parle, c'est un autre monsieur. Quand on fait l'expérience, quand on fait l'expérience d'un amour pur sans mélange, une part de notre cœur se retrouve irradiée, pour ainsi dire. En un sens, elle a été consumée. Surtout quand cet amour lui a été arraché, pour une raison quelconque. Un amour de ce genre est à la fois la bénédiction suprême et la malédiction la plus tragique pour qui en est atteint. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Oui. L'âge, l'épreuve du temps ou l'expérience sexuelle ne jouent dans de tels cas aucun rôle important. La seule chose qui compte est de savoir s'il s'agit bien d'amour à 100%. L'amour que vous aviez pour cette jeune fille à 16-17 ans était pur, c'était bien un amour à 100%. Oui, vous avez rencontré la partenaire idéale dans la première phase de votre vie. Peut-être devrais-je rajouter, hélas.
Alors, à mon avis, auditeur de Kaladma Radio, lisez La Cité au mur incertain de Haruki Murakami. En tout cas, moi, j'ai vraiment très envie de lire ça parce que c'est très questionnant. Merci, Geek Patrick.
À votre disposition.
La chronique de Geek Patrick.
Eh bien, après Geek Patrick, nous avons Miss Lemon. Pardon. Nous avons Miss Lemon. C'est l'été et elle nous emmène surfer sur les plages de la Californie.
L'étoffe d'un héros. Comme il l'avait prévu, le take-off était clément et c'était une bonne chose car Fletcher se sentit monter par palier avec une incroyable lenteur. Mais une fois debout, tout réapparut. La planche qui flotte à la surface de la vague, qui prend de la vitesse à mesure que la face se redresse et soudain, il se retrouve en position à demi accroupi, en train de pousser la planche dans la partie la plus rapide de la vague, comme un oiseau en vol, sans un bruit, à l'exception de celui de la lèvre qui frappait l'eau derrière lui. Fletcher continua à suivre sa vague. Les rides se multiplièrent. Il s'habitua à la manière dont la grande planche écrasait la surface de l'eau. Il s'aperçut que grâce au poids du surf, à la ligne de rail, il pouvait entrer plus tôt et maintenir une ligne haute et rapide. Le froid fut une souffrance tout d'abord, mais peu à peu, une sorte de clarté s'imposa. Fletcher voyait d'un œil neuf les traits de la falaise, l'angle des tranchants des rochers, les dernières lueurs qui se reflétaient sur la bande de sable mauve. Mais il ne voyait pas seulement ces choses, c'était une union et c'était là que se trouvait le plaisir. Peu importe qu'il ne soit plus très jeune ni très en forme et qu'il se contente d'effectuer quelques figures de base sur une vague banale. Il était venu dans un endroit d'une grande beauté, mais il avait fallu les vagues et le fait de les chevaucher pour lui offrir cette communion. C'était une vérité simple, il en avait toujours été ainsi et il en avait été privé trop longtemps. You'll catch him surfing at dead outside USA. Ventura County line. Inside USA. Santa Cruz and Trinidad. Inside USA. Australia, Caribbean. Inside USA. All over Manhattan. Inside USA. And down Tahiti way. Inside USA. Everybody's got surfing. Surfing USA. Rebonjour, je suis ravie de vous revoir, l'équipe de A 23 Pas du Mystère, pour traiter aujourd'hui d'un aspect textile un peu particulier pour des protagonistes d'un genre policier bien à part lui aussi qui a été qualifié par les Américains eux-mêmes de surf noir. Ça vous embouche un coin.
Hein. Oh ouais, jamais entendu
c'est
parler.
Les vacances. Et ouais, bien sûr, je comptais vous surprendre. C'est l'été. J'ai nommé certains personnages de Kem Nunn, qui est un auteur californien qui a émergé avec son roman Tapping the Source, publié en 1984, traduit en français sous le titre de Surf City, qui est un petit peu pauvre, on le verra.
Ouais, c'est pas fatigué le traducteur.
Voilà. Puis, il a continué avec un autre ouvrage, Dogs of Winter, en 97, traduit sur le titre français, Le Sabot du Diable. Donc, question textile, on va avoir affaire à des textiles fonctionnels qui sont d'une part le jean, et d'autre part le néoprène. Donc,
cool.
Nous trouvons soit des jeans dans le roman Surf City, sous la forme d'une salopette de travail d'un mécano, Ike Tucker, qui a 19 ans. Et puis finalement, il va apprendre à surfer, donc il se coupe ses jeans en Bermuda, grossièrement à gros coups de ciseaux, parce qu'il n'a pas trop d'argent, pour faire ses débuts en surf. Et puis pour le roman Le Sabot du Diable, on trouve des combinaisons en néoprène, avec pareil, des découpages à coups de canif pour les besoins, et puis des chaussons, des cagoules, parce qu'en fait, on a plutôt affaire à des ex-stars du surf. Donc, il y a Jack Fletcher, qui est un photographe de surf, et puis Drew Harmon, qui est un ex-champion de surf. Donc, en fait, tout est lié au surf, ou plutôt, ce n'est pas le surf, en fait. C'est la vague, la houle, qui permet d'atteindre le surf ultime et d'aller toujours plus loin.
Mmh.
Donc, bien sûr, on va aussi avoir des planches de surf de haut niveau. Alors, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais c'est passionnant. Ou des planches réalisées en balsa et en cèdre, selon les méthodes ancestrales hawaïennes. Ça, c'est carrément autre chose.
D'accord.
Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, et on va vérifier si nos deux personnages, donc Ike Tucker et puis Jack Fletcher, ont bien l'étoffe de héros.
Mmh.
Alors, je vais commencer par Kemnon, qui donc est l'auteur de ces ouvrages, qui est californien, c'est un ancien surfeur, qui a habité un endroit en Californie, Huntington Beach, qui fait partager en fait la culture et la sous-culture du surf sud-californien. Donc, il choisit intentionnellement ce lieu qu'il connaît si bien, qui est une station balnéaire, qui était très en vogue des années 60-70, qui était très hippie et qui, dans les années 80, a continué de conserver son air hippie de la génération des parents, avec des magasins de surf et des bazars de plage, des bars à bikers et des bikers, tatoués bien sûr, et puis des fameuses good vibration or good vibes, et le sentiment que le rêve américain s'effrite.
Ouais.
Tandis que les autres spots californiens à la mode, dans le Orange County, avait déjà été pris en main des années 80 par les yuppies. Donc, si vous en rappelez, ce sont des jeunes... C'était, parce qu'ils sont plus vieux maintenant.
Ils sont beaucoup moins jeunes aujourd'hui.
C'était donc des jeunes cadres dynamiques, ambitieux, sportifs, qui aspiraient à la gloire, le pouvoir, l'argent,
voilà.
Et qui, eux, étaient à fond dans le rêve américain en pensant que c'était encore possible.
Ils avaient la trentaine dans les années 80.
Que c'était, à l'époque, sous la présidence de Ronald Reagan, 80-89.
Voilà. La révolution néolibérale.
Les gagneurs et l'argent, voilà. Le libéralisme. Voilà, donc en lisant Surf City, on ressent en fait ce tiraillement des deux airs entre les hippies et les nouveaux arrivants.
Ouais.
Et puis le fait que l'Amérique change en fait, ça c'est sûr.
Tout à fait.
Donc Kemnon était influencé par Chandler, Hammett et très impressionné par les romans Dog Soldiers de Robert Stone et Cutter and Bone de Newton Thornburg, qui sont deux romans noirs, thrillers on va dire, écrits dans le milieu des années 70, qui mettent en scène des vétérans du Vietnam.
D'accord.
Donc Kemnon, de son côté, écrit 5 romans assez espacés entre 84 et 2012, son dernier roman. Et donc il est toujours en vie, je tiens à le préciser.
D'accord.
Et après son premier roman, donc Surf City, il a suivi un cursus universitaire qu'il n'avait pas eu jusque-là. Il a été professeur à l'université sans conviction et finalement a été happé par Hollywood pour des scénarios. Donc il a participé à des séries et des films aussi. Voilà. Et entre-temps, de temps en temps, il sortait un roman. Donc, il a aussi influencé des auteurs assez connus comme Thomas Pynchon, donc par exemple Inherent Vice en 2009, et puis Don Winslow, qui est super connu quand même, qui lui aussi était surfeur.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Et puis, il y a eu, par la suite de ça, un recueil de nouvelles de surf noir qui s'appelle Californios, publié en 2012. Je n'ai pas trouvé d'équivalent français, je pense que ça n'a jamais
été traduit.
Voilà, c'est ça. Donc toutes ces références seront mises en ligne au Bon Soin de Jérôme, il y a également quelques références d'articles et puis une interview de Kemnon qui a un super accent si vous aimez la VO. Voilà. Alors Surf City et Le Sabot du Diable sont deux romans noirs avec des personnages qui mènent leur propre enquête. Donc ça veut dire je n'ai pas de policier, je n'ai pas de private investigator.
D'accord.
Et donc Ike Tucker qui a 19 ans, qui est un mécano qui habite un endroit complètement paumé dans le désert californien, chez son oncle, dans une station-service, donc vraiment le pire qu'on puisse envisager, va suivre sa propre enquête pour retrouver sa sœur qui a quitté 2 ans plus tôt la station-service familiale au milieu de nulle part, parce que c'est pas un endroit pour les filles, dans le désert de Californie. Et il apprend qu'elle a disparu à la suite d'un trip en Mexique avec une bande de surfeurs de cet endroit, de cette station balnéaire Huntington Beach, et qu'elle n'en est jamais revenue. Donc il a très peu d'indices et du haut de ses 19 ans, il pense qu'il suffira de se faire accepter par la bande de surfeurs pour retrouver sa sœur. Et donc il va se lancer dans l'expérience du surf, donc il coupe ses Bermudas, etc.
D'accord.
Et il troque en fait un désert vide contre un océan pacifique qu'il découvre en fait. Et, et pour lui, c'est la même chose mais en liquide.
Ah,
c'est
ouais,
très
d'accord.
chouette en fait. Ouais, ouais.
Ah, ouais,
c'est vraiment très bon, très, très bien écrit, etc. Donc je ne spoile pas, je vous laisse lire la suite. Ensuite, l'intrigue du sabot du diable met en scène donc un ex-surfeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, Drew Harmon, qui est une légende en fait du surf, et Jack Fletcher, qui a autrefois été appelé Dr. Fun, qui est un photographe qui était aussi super réputé pour son surf et ses prouesses photographiques. Donc, il faisait la une des magazines, des photos de légendes sur le surf, etc. Et tous ces gens-là se sont retirés du monde. Donc, Drew Harmon, on ne sait pas trop où il est et on pense qu'il fait toujours du surf, mais très incognito. Mm-hmm. Et puis, Jack Fletcher, on le retrouve divorcé, brisé par le surf, donc il a mal partout, reconverti en photographe de mariage déprimé. Les costumes des années 80 étaient bleus, électriques, etc. Donc, il y a de quoi. Et là, il est sous cachet en permanence parce qu'il souffre et il est complètement déprimé. Quoi.
D'accord.
Et arrive le moment où il est contacté pour remettre le couvert et partir en reportage. Donc, à la demande de l'ex-champion Drew Harmon qui dit je veux faire des photos. J'ai trouvé un endroit formidable qui est un endroit mythique et je veux ce photographe-là. Parce que c'était le top du top à l'époque. Donc, il se retrouve... à partir avec un vieux camion qui tombe à moitié en panne pour aller retrouver ce champion dans un spot introuvable, dans un territoire indien au nord de la Californie, à l'embouchure du Pacifique, en face de l'Oregon. Donc là-bas, le climat et les vagues sont extrêmes, c'est fini, le soleil, tout ça, c'est toujours mouillé tout le temps. La Normandie n'est rien, excusez-moi les Normands. Et ce dernier surf, on va dire, devrait refaire la gloire des deux hommes. Donc nous découvrons au fil des pages les sacrifices aussi infligés par le temps sur leur légende et le prix à payer pour faire partie du culte du surf et comment on vieillit, quoi. C'est vraiment assez bien décrit. Les deux romans sont hyper différents, mais ils sont liés parce que, de mon point de vue, hein, car Hightucker et Jack Fletcher, ce sont des suiveurs.
Oui.
Qui finalement vont se retrouver meneurs et puis qui vont se retrouver face à une nature, alors ce qu'on appelle en américain, dans la tradition américaine, le wilderness, c'est-à-dire la nature hostile où tout est sauvage.
Ah ouais.
Et qui vont finalement réussir à survivre tandis que les autres vont s'arrêter en cours de route pour différentes raisons. Et le surf est une métaphore, c'est-à-dire c'est un pèlerinage pour trouver la vague, une épopée vers l'accomplissement ultime, une communion totale et un retour à l'innocence. Donc, au final, les suiveurs vont pouvoir puiser suffisamment d'énergie pour survivre, les autres vont disparaître, et puis on va retrouver aussi des femmes qui sont violentées, qui résistent elles aussi, et finalement tout le monde se disperse à la fin, il n'y a pas de vainqueur. La vie prend un nouveau départ pour tout le monde, ou bien il n'y a plus de départ. Et puis, chacun repart de son côté, nourri par la somme des expériences. C'est une sorte de rédemption, en fait, qui fait prendre les chemins de la sagesse à ceux qui restent dans l'histoire.
Voilà. Très bien. Merci Miss Lemon.
Merci Miss Lemon pour cette chronique. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, chers auditeurs et chères auditrices. Il est donc temps de nous quitter. Alors, je rappelle qu'on a des auditeurs non seulement en France, mais statistiques à l'appui maintenant en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Irlande, au Canada et aux États-Unis.
Oh, c'est magnifique.
Ça devient tentaculaire, la pieuvre, on va nous appeler.
Ne manquez pas de consulter notre podcast sur notre
radio-caquette.fr, émission culturelle, à 23 pas du mystère.
Où vous allez retrouver les références des ouvrages dont il a été question et des informations complémentaires pour les plus curieux. Et vous pourrez bien sûr réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira.
Quel bonheur.
Alors rappelons que l'équipe prend des vacances au mois d'août
et
vous donne rendez-vous au mois de septembre avec, préparez-vous, nous aurons un invité qui nous emmènera faire de l'archéologie policière. Et puis nous aurons notre équipe de chroniqueurs au grand complet.
Fidèle au poste pour la rentrée.
Allez, bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances à tous.
À très bientôt.
À 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.